Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Nous attendons donc que Madame Florence Morlighem, députée du Nord, se connecte pour lancer ce tout premier Instagram Live avec des députés. L'idée est de parler un peu de leur parcours, de voir comment ils en sont arrivés là, et puis aussi et surtout savoir un peu ce qui se passe en ce moment pour eux, comment ils vivent leur confinement, essayer de savoir aussi ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, parce qu'on sait qu'on est, enfin c'est une assemblée qui est un peu à huis clos en ce moment, donc on a envie de savoir ce qui s'y passe, comment les décisions sont prises, quels sont les dossiers sur lesquels ils travaillent. Donc tout ça, on va essayer de le découvrir avec elle, si le chat nous en permet, puisqu'on a un petit invité surprise qui n'arrête pas de sauter dans tous les sens. Donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé notre entretien. Mais bon, à tout de suite, elle vient nous rejoindre. Bonsoir Madame la députée. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien, bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Très bien.
Un peu fatiguée par le rythme, parce que c'est un peu éprouvant. Depuis que j'ai été nommée, ça fait que 3 mois, le rythme est très soutenu. Et puis, malheureusement, dans des conditions actuelles qui sont difficiles.
Oui, bien sûr. Mais justement, je voulais justement qu'on aborde un peu votre parcours et savoir un peu comment vous en êtes arrivée là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce job de députée et qu'est-ce que vous faisiez avant? Comment vous en êtes arrivé à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, quelques mois?
Alors, c'est un parcours tout à fait particulier. C'est un vrai parcours de marcheuse, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a lancé son projet, j'y adhérais rapidement. Tout au départ, je me suis dit que c'était un peu utopiste et qu'il n'y arriverait pas. Et puis, assez rapidement quand même, plus je l'ai écouté, plus je me suis dit qu'il montrait la bonne direction. J'ai décidé de le suivre. Donc, j'ai rejoint un comité à Lille et puis j'ai été co-animatrice de ce comité. Mmh. De fil en aiguille, j'ai animé des réunions.
Alors, petite question. Parce qu'on ne dit pas que vous êtes députée LREM, on dit que vous êtes députée apparentée LREM. Donc pourquoi ?
Je suis députée apparentée parce que j'ai quitté le mouvement, pas du tout suite à un désaccord avec le gouvernement ou la politique du gouvernement, mais plutôt par rapport au fonctionnement des instances au niveau local, avec qui D'accord. J'ai eu quelques désaccords et je n'étais pas la seule. Voilà, moi je me suis engagée en politique pour un véritable renouveau. Mmh. Des talents de la société civile qui sont méritants, voilà, et qu'il faut reconnaître chacun sa juste valeur en dehors des anciens réseaux.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être députée alors? Parce que ça, on va savoir.
J'ai une vie un peu compliquée. J'ai souvent tendance à dire que mon parcours politique, quand j'y réfléchis, ça me renvoie au film Slumdog Millionnaire.
D'accord.
J'ai eu un parcours de vie assez particulier. J'ai eu une éducation très droite catho, je peux le dire. Je suis orientée aujourd'hui un peu plus avec le corps à gauche, je pense que c'est clair. Et si vous voulez, je suis fille de médecin, donc j'ai eu une éducation bourgeoise à l'école publique, etc. Mais Je me suis ensuite mariée, j'avais une très bonne vie, etc. Je me suis mariée en séparation de biens. Ce qui fait que le jour où j'ai divorcé, je suis partie avec mes deux enfants. Et puis, on va dire, bon, ben voilà, dans des conditions pas forcément très favorables parce que je n'avais pas travaillé pendant 15 ans. Donc, si vous voulez, ça, je suis passée un petit peu de l'autre côté de la vie facile où voilà, je ne peux pas rester mariée avec un homme parce que je partais en vacances 3 fois par an. J'ai changé de vie, je ne suis plus partie en vacances, voilà, j'ai relevé ça. Et puis, suite à ça, j'ai aussi connu une perte d'emploi à un moment dans ma carrière. Donc voilà, ça m'a confrontée à des difficultés qui n'étaient pas communes, en fait, aussi à mon entourage social. Donc, voilà, c'est la confrontation à certains faits de vie qui fait que j'ai vraiment eu envie de m'engager parce que, par moment, l'injustice, elle est mal perçue, mal expliquée. C'est vraiment générateur de beaucoup de pensées. Voilà.
Et donc, votre vocation politique, elle est un peu venue de là, en voulant changer les choses, j'imagine, et essayer de contribuer à une amélioration de la société, peut-être?
Oui, je l'ai toujours fait, soit par du bénévolat. J'ai toujours été active dans la vie sociale, quand mes enfants étaient à l'école, je participais à énormément de choses. Voilà, je me suis toujours investie dans des bibliothèques, je suis investie dans une association de lutte contre la précarité alimentaire. Donc, ce côté, si vous voulez, d'être tournée vers l'autre, ce côté de la solidarité, si vous voulez, je le porte sur moi. Donc, quand je parle de solidarité alimentaire, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est rencontrer quelqu'un qui a faim et qui explique que quand on a vraiment très faim et qu'on n'a vraiment rien, boire de l'eau tiède, c'est ce qui calme le mieux l'estomac. Donc, il explique la façon de boire et à quelle température boire l'eau. Enfin, c'est des échanges, si vous voulez, qui nourrissent vraiment mon engagement. C'est-à-dire que voilà, je me nourris de la réalité. Là, j'ai réagi il n'y a pas très longtemps sur des prisons parce que voilà, j'ai touché ça du doigt.
Oui, on sent que
mes émotions.
On sent que votre engagement, en tout cas politique, est plus loin d'une simple carrière, en fait. Hein. On est vraiment sur quelque chose de presque vocationnel.
Moi, je n'y suis pas du tout allée par ego. J'y suis allée parce qu'à un moment, j'ai été soutenue. Je me suis toujours d'ailleurs, donc c'est ce qui m'encourage beaucoup. Je ne suis pas du tout allée sur marche en disant un jour je serai attachée parlementaire, un jour je serai candidate. Voilà, j'ai répondu à l'appel aux candidatures des législatives parce qu'Emmanuel Macron avait fait appel aux femmes.
Tout à fait.
Voilà, largement améliorer les conditions de la parité dans l'hémicycle. Voilà, aujourd'hui je suis heureuse. Parce que je représente quand même un parcours de marcheuse qui, je pense, est reconnu. Voilà, je reste très engagée sur le terrain et très engagée dans l'action à l'Assemblée.
Donc, vous parlez de vos engagements. En tant que députée aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez vraiment faire des choses? Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être dans l'hémicycle, d'être sur les bancs de l'Assemblée nationale, ça vous permet de concrétiser votre engagement à travers des mesures législatives et à travers les politiques publiques?
Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que c'est le cœur de la fonction aussi, de savoir défendre les intérêts de sa circonscription au niveau national. Voilà, ça sous-entend d'autres problèmes au niveau des gestions de collectivités, etc.
Bien sûr.
Des politiques territoriales qui ne peuvent pas être forcément à Marseille qu'à Lille. Donc, ça, c'est un sujet qui est très riche. Et moi, ce que j'apporte, ce que je ressens quand j'ai été nommée députée, même en tant que suppléante et en tant que marcheuse, je veux dire, depuis que je me suis engagée, j'ai toujours eu le même niveau d'investissement. J'ai commencé à gratter au marché de Oisem en janvier 2017. Depuis, je n'ai jamais arrêté de m'imprégner de ces valeurs de terrain. Et l'écoute est très importante.
Bien sûr.
Je suis heureuse aujourd'hui d'être sollicitée directement. Parce qu'en plus, mon équipe n'est pas encore vraiment mise en place. Parce que, au bout de 3 mois, vous vous doutez qu'après la réforme de retraite, le 49-3 passé au Covid, c'est un peu rock'n'roll.
Oui, j'en conviens.
Je pas encore de site internet. Enfin, voilà, tout est un peu à l'arrêt parce que l'activité est arrêtée. Donc,
ouais. Précisément, j'aurais aimé que.
Je sache ce que je fais, donc je suis présente.
D'accord. Je saisis un peu l'opportunité pour faire une petite transition sur ce que vous êtes en train de dire. Comment ça se passe en ce moment pour vous? Déjà, où est-ce que vous êtes? Depuis combien de temps êtes-vous confiné? Et comment le travail parlementaire arrive à être maintenu? Comment ça s'organise au sein de l'hémicycle sans les 577 députés présents?
Alors, ça a été difficile au début. Moi, j'étais à l'Assemblée au moment où est tombée l'annonce du fait de personnel et de députés contaminés. J'avais fréquenté l'hémicycle et des députés infectés. Donc, à mon retour de Paris, je me suis auto-confinée 14 jours. C'est-à-dire que j'ai évité D'accord. tous les contacts physiques, ce qui était pour moi un sacrifice parce que je prenais du retard pour ce que j'avais prévu pour ma circonscription. Parce que depuis que j'ai été nommée, avec la réforme de la retraite et pour faire... l'apprentissage de mon métier à l'Assemblée, j'ai pas été très présente tout de suite. Et en fait, j'ai dû faire cette parenthèse. Et cette parenthèse, au moment où je pensais la réouvrir, arrive le Covid. Donc là, je peux rien prévoir. Je suis en relation avec le monde de l'entreprise, avec le monde de la santé. Le monde économique et social en général, on va dire, mais pas autant que je le voudrais, les journées sont trop courtes.
D'accord. Et comment s'organise le travail parlementaire, donc, concrètement?
Alors, le travail parlementaire, petit à petit, on a mis en place un travail par système de visioconférence. Mmh. Donc, les auditions se font par visioconférence, aussi bien au niveau du groupe que des commissions.
D'accord.
Et puis les dispositions à l'Assemblée vont s'assouplir un peu, donc je pense que il y aura plus petit à petit, il y aura plus de députés dans l'hémicycle. Et tout ça est en train de se mettre en place pour espérer un retour, un fonctionnement plus normal, parce que la visioconférence, il y a un côté frustrant, c'est tout ce lien qu'on n'a jamais quand on ne voit pas les gens. Hein.
Oui, bien sûr. Et est-ce que comment ça s'organise concrètement? Enfin, on sait qu'il y a quelques députés qui sont encore à l'Assemblée nationale. Combien sont-ils par groupe? Comment les votes sont organisés aussi, puisque vous n'êtes pas tous sur place pour pouvoir voter? D'ailleurs, on peut se poser la question aussi, comment ça se fait que le vote électronique n'est pas encore possible? Enfin, est-ce qu'il y a des est-ce que toute cette crise aussi va permettre de réfléchir à la modernisation du travail, peut-être, d'après vous?
Alors, je pense, effectivement, si vous voulez, le fonctionnement de l'Assemblée, c'est aussi un fonctionnement, on va dire, de tradition républicaine. Donc, ça ne peut pas être bousculé du jour au lendemain. Par contre, c'est sûr que les sujets de démocratie participative sont de plus en plus prégnants. Donc, le fonctionnement, oui. Sera amené à évoluer. Je pense que la crise, de toute façon, va amener à beaucoup d'évolutions. Moi, maintenant, mon vote, je suis apparentée En Marche parce que je suis fidèle et tout à fait en soutien des actions du gouvernement. Donc, mon rôle, c'est de les enrichir. Et si vous voulez, je trouve qu'en cette période, moi, c'est un représentant du groupe qui vote pour moi. Je pense qu'on va faire la candidature pour élargir. Une quarantaine de députés du groupe dans les semaines à venir.
Est-ce qu'ils sont combien pour le moment, là? À peu près, hein, à la louche.
J'aurais
une
pas
dizaine, non de... Ouais, ouais. D'accord.
Je vais vous dire, je suis extrêmement impliquée. C'est très difficile. Hein, donc, j'essaie de suivre vraiment avec beaucoup de sérieux toutes les mesures qui sont prises. Tout le travail de ma commission, parce que je suis à la commission défense et l'opération de résilience, et les services des armées sont extrêmement mobilisés. Mmh. Très mobilisés aussi auprès des habitants de la circonscription.
D'accord.
Notamment au niveau des quartiers, qui sont beaucoup critiqués, beaucoup stigmatisés. Mmh. En fait, on va assez peu faire de la pédagogie. Et
Ouais. Et quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, vous? Quels sont les sujets que vous souhaiteriez porter durant cette législature? Vos propres sujets, ceux qui vous tiennent à cœur?
Moi, les sujets qui me tiennent à cœur sont les engagements sociétaux. Donc, ma question au gouvernement, elle portait sur la précarité alimentaire. Mmh. Voilà, parce que c'est ce que je vous dis, je connais le sujet et j'en prends la mesure. Voilà. Après, ça va être sur des sujets sociétaux, par exemple, comme la fin de vie. Je pense aussi que la crise la crise sanitaire peut laisser émerger sereinement ce débat de la fin de vie qui n'est pas l'euthanasie pour tous. Mourir, je pense que voilà, ce regard doit changer. Ça doit faire émerger aussi de nouvelles pistes sur le fait d'une population vieillissante. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'EHPAD, quelque part, c'est devenu un automatisme. Ça, c'est aussi une évolution de société difficile. En même temps, ce n'est pas vrai partout. Il y a encore voilà, certaines catégories de population qui s'occupent de leur personnes âgées. Donc, bien ça, sûr. C'est un sujet voilà, de société. Et forcément, je m'engage aussi sur les conditions de détention et les prisons. Sur ma circonscription, et que c'est une cause à laquelle j'étais attachée avant. Je pense que l'institution prison doit redevenir efficace, entre guillemets. Je pense qu'elle n'a plus les moyens de l'être aujourd'hui, et que voilà, si on n'a pas le bon médicament, la société, on ne peut pas espérer qu'elle aille mieux parce qu'on peut.
Bien sûr. Vous avez signé une tribune d'ailleurs sur la question de la situation sanitaire dans les prisons actuellement, n'est-ce pas?
Voilà, alors j'ai signé une tribune parce que dès que j'ai été nommée, en fait, j'ai pris contact avec le directeur de la prison. Voilà, la condition carcérale en France, c'est un sujet depuis plusieurs années. Et donc, j'ai fait une demande de visite pour y aller au début du confinement parce que j'ai été informée de certaines tensions. Parce qu'aussi, en dehors de la prison, et déjà dans ma campagne des législatives, j'étais parfois sollicitée par des familles de détenus. Donc voilà, c'est pas un sujet interne à la prison, hein, c'est un sujet de société réelle.
Bien sûr, bien sûr.
J'échange aussi beaucoup avec des jeunes qui ont commis des petits délits, qui ont parfois commis plusieurs peines. Et donc quand je suis allée visiter, et là j'ai vu ce qui se passait en plus avec le Covid, c'est-à-dire ça exacerbe tout. Donc les difficultés du personnel pénitentiaire. Quand on ouvre la porte à un détenu dans une cellule de 9 mètres carrés ou à 3 ou 4 détenus, dans une cellule, c'est pas le même travail. Est-ce que ces agents de personnel pénitentiaire qui, quelque part, représentent l'État, est-ce qu'à un moment on est responsable, vraiment? Je pense que voilà, j'ai un peu tiré une sonnette d'alarme pour eux et aussi pour les détenus. Parce que je vous disais, la fonction prison aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Voilà, il faut absolument désengorger les prisons. Et puis le prisonnier, c'est un citoyen qui, comme un.
Ah, il y a eu un petit problème de connexion, on vous a perdu.
Sujet. Donc si vous voulez, quand j'ai visité la prison, suite à ça, j'ai pris contact. Je me suis dit, je ne suis pas experte du domaine. Je me suis dit, il fallait que je m'entoure. Donc, j'ai contacté des avocats pénalistes. J'ai contacté des présidents d'associations. J'ai contacté des magistrats. J'ai contacté des associations. Et puis, petit à petit, l'idée d'une tribune a émergé. Et puis, donc, elle a abouti. Alors, forcément, on me dit souvent que voilà, ce n'est pas un sujet vendeur. C'est sûr que les prisons, la fin de vie, les thérapies de conversion, ce n'est pas forcément des sujets vendeurs. En même temps, ce sont de vrais sujets.
Oui, ils sont importants, bien sûr.
Voilà. Je suis très, très attachée au regard qu'on porte sur les quartiers, la façon dont on pourrait envisager peut-être de travailler différemment. Voilà, c'est du réel, c'est du quotidien.
Bien sûr. Vous êtes où, vous, actuellement? Dans quelle ville, précisément?
Moi, je suis à Lille. Je suis D'accord. lilloise. Donc, j'habite au quartier Toisen, qui est un quartier populaire. voilà, un quartier auquel je suis très attachée. Et ma permanence est où je suis ici, elle est place du Maréchal Leclerc, donc sur Vauban-Inkerne, qui est un autre secteur. Et j'ai la particularité d'avoir une circonscription donc, qui va de Armentières jusque l'île sud-ouest en passant par l'Homme. Mmh. Et, un pôle d'excellence alimentaire qui s'appelle Alimentaire. J'ai le deuxième mine de France, donc après l'Homme. Voilà, j'ai Euratechnologie à Lille, qui est un centre d'incubation de start-up tout à fait très fort. J'ai en même temps une maison d'arrêt. Et si vous voulez, j'ai une catégorie socio-professionnelle où dans les web, je vais avoir une population plus bourgeoise, d'entreprise aisée. Et puis dans des quartiers de Lille, voilà, une population qui est très largement en dessous du seuil de pauvreté.
D'accord.
J'ai vraiment cette chance de pouvoir un peu toucher à tout.
Vous parliez des mesures qui vont être mises en place à court terme au niveau de l'Assemblée nationale pour que vous puissiez recommencer vos travaux, en tout cas revenir dans l'hémicycle. Et qu'est-ce qui est prévu à ce stade? Et est-ce que le déconfinement est aussi prévu pour le 11 mai? Est-ce que le 11 mai, tous les députés pourront rejoindre l'hémicycle? Est-ce que vous savez comment ça va se passer un peu ou pas encore?
Bon, moi je pense que le 11 mai, c'est une date de départ du déconfinement. En tout cas, je l'imagine comme ça et de manière progressive. Mmh. Voilà, il y a eu des députés contaminés, du personnel contaminé.
Bien sûr.
Nous-mêmes, on est aussi responsable, je veux dire, de la santé de nos collaborateurs. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que systématiquement, on recentre les débats sur, là c'est sur la date du 11 mai. Peut-être que dire mi-mai c'était mieux, ça pouvait être plus vite. Enfin, je veux dire, là le 11 mai, c'est une croix rouge sur l'agenda de tout le monde et
oui.
Voilà, faut pas rêver, ça va pas être un coup de baguette magique. On voit bien qu'au Japon on a réouvert des écoles et que là on les referme parce qu'une centaine de cas qui réapparaissent. C'est la science qui va apporter la réponse, c'est pas moi.
Bien
c'est
sûr.
Pas...
Donc, est-ce que vous pensez que... Pardon. Oui, bien sûr. Mais pourquoi alors le gouvernement a-t-il fait le choix, enfin le président de la République en l'occurrence, avec la concertation des membres du gouvernement, ont-ils fait le choix d'affirmer cette date alors? Pourquoi n'était-il pas plus prudent? Pourquoi une échéance dans ce cas, si rien n'est sûr?
Non, mais justement, ce que je vous dis, c'est exactement mon avis. Je pense que, voilà, c'est un choix. Après, je pense que si le président n'avait pas indiqué de date, on lui aurait de la même façon
reproché
de ne pas avoir indiqué de date. Et c'est le niveau du débat politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de l'après sans avoir l'humilité de prendre du recul par rapport à aujourd'hui. C'est l'immédiateté. Pour moi, rien n'a changé. Ce matin, je regardais les journaux. Mais je ne vais pas dire que j'étais désespérée, mais je trouvais ça quand même un peu navrant, un peu décevant. Cette surenchère quotidienne, mon après, il va être meilleur que le vôtre. Mais sur quoi? Sur exactement la même chose que ce qui se disait avant. Mmh. Les écolos se revendiquent toujours plus écolos que les autres. Hein. On reste exactement pour moi au même niveau. Et là-dessus, il y a une prise de recul à reprendre. Parce qu'en fait, ce qui fait tourner le... Enfin, pour moi, hein, ce que je vois dans ma circo, dans ce qui m'entoure, d'abord, c'est des élus municipaux de tous bords qui sont extrêmement mobilisés. Voilà, ça, il faut bien dire que... On a parfois tendance en ce moment à vilipender très facilement le politique. Le politique, heureusement qu'il est là aujourd'hui, heureusement qu'on a des maires de village qui mettent en place des choses extraordinaires. Il faut un peu rendre hommage à tout le monde. Et je perds un peu le fil de ce que je vous disais, mais ce qui fait vivre aujourd'hui, c'est ça, et c'est l'associatif. Et je pense qu'il est plus que l'heure de créer un circuit court de l'associatif. On a un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire qui travaille beaucoup pour l'économie sociale et solidaire, mais je pense que sur l'association, peut-être dans des plus petites structures, dans des plus petits formats, parce que c'est ça aussi qui fait vivre le civisme au quotidien. Après, quand on est dans des grosses structures associatives, c'est plus la même chose. Une petite asso de quartier qui réunit 20 personnes, ou parfois 50, on trouve autre chose. On trouve, et ces assos-là, aujourd'hui, elles sont vraiment dans la difficulté. Comme bien dans sûr. Les quartiers, tout le monde, il faut les aider à devenir auto-entrepreneurs, etc., etc. C'est super. Moi, j'y vais en faire la promo des emplois francs dans les quartiers, etc. C'est génial. Mais aujourd'hui, qui y va expliquer à ces jeunes auto-entrepreneurs le fonds de solidarité, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un travail que moi, je fais.
Vous parliez, vous esquissez un peu la question, vous parliez un peu de l'après. Qu'est-ce qui va être prioritaire quand on sera sorti, on le sait, progressivement de ce confinement? Qu'est-ce qui sera pour vous, en termes de politique publique, la priorité? Ou qui devrait être la priorité?
On va dire que tout est devenu une priorité. En fait, le Covid, il agit comme un zoom. Et donc, on a le zoom sur la pauvreté. Mais le zoom sur la pauvreté, il amène au même constat. C'est-à-dire que quand on a le RSA aujourd'hui, on aura peut-être 100 euros de plus. Mais quand on n'aura pas droit au RSA, parce qu'on est 1 euro au-dessus du barème. Et voilà. Et surtout quand on n'est pas éligible à aucune aide sociale. Il y a des gens qui font pas leur démarche, etc. Moi, je travaille dans une association de redistribution qui redistribue sans condition. Parce qu'il y a des gens qui ont... c'est cette population-là, pour moi, la population qui ne peut pas retourner à l'emploi. Moi, je rencontre parfois dans ma circonscription des profils de personnes qui sont vraiment dans une difficulté de retour à l'emploi, qui n'ont pas forcément un niveau socio-culturel très élevé, qui ont parfois des difficultés à lire et écrire. Je peux vous parler de personnes qui ont parfois 40 ans, qui ont quitté l'emploi depuis 10 ans. Il y a plein de jeunes qui cherchent aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a un moment, cette réalité-là, il faut aussi l'accepter.
Absolument.
On s'aperçoit aujourd'hui que, pour les SDF, on a énormément agi parce qu'il y a le Covid. Notre prise de responsabilité aujourd'hui, elle est là. C'est ce que je le continue demain parce que j'en fais une priorité ou pas. En fait, l'après, ça va être l'heure des choix, c'est tout.
Bien sûr, des priorités.
Tout le monde propose son truc, mais bon, c'est pas.
On a une petite question d'une des personnes qui nous suit, si vous le permettez.
Oui.
On nous demande si vous portez localement les projets et les valeurs de l'Union européenne.
Ah, tout à fait. Je suis française et européenne. Je suis extrêmement attachée à l'Europe. Et aujourd'hui, justement, on voit à quel point l'Europe doit être renforcée. L'Union fait la force. Un virus n'a pas de papier. Quand je vois le travail qui est accompli par le groupe Renaissance, j'en suis fière. D'ailleurs, j'ai signé une tribune aussi concernant les prisons au niveau européen. Donc là, c'est une tribune qui évoque l'amnistie. Et dans un sens plus symbolique, on va dire, mais voilà, qui renforce quand même la prise de conscience à ce niveau-là. Et je pense que l'Europe, c'est aussi un garde-fou pour garantir les libertés fondamentales de chacun au-delà de la France. Et voilà.
Alors, dans la continuité de la précédente question, on vous demande quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter et que vous allez défendre.
Alors moi, mes valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors ça peut être un peu bateau, mais quand on le fait vraiment, faut vibrer pour porter ces valeurs-là. Il faut avoir du courage. La solidarité, le solidarisme, je pense que c'est une clé qui revient un petit peu.
Et souvent, dans l'approche des quartiers que je trouve pas toujours juste, cette fraternité qu'on retrouve un peu, aujourd'hui, elle a toujours existé dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a toujours une solidarité. Jamais personne à France s'inquiète toujours de son voisin. Moi, dans ma résidence, c'est la première fois que mes voisins s'inquiètent les uns des autres. Mmh. Et... voilà, c'est aussi important de s'en rendre compte.
Mmh, très bien.
Pareil, petite. J'ai reçu un monsieur hier qui m'expliquait que pour lui, le confinement, c'était extrêmement difficile. Mmh. Il est 31 mètres carrés avec sa femme et un bébé de 7 mois.
Mmh. Oui, en effet, oui.
Voilà.
Mmh, en effet.
Voilà, oui, il est en bâtiment.
Oui, je comprends. Dernière petite question, si ça vous convient. Beaucoup craignent qu'avec cette crise, la démocratie soit un peu mise à mal. Quel est votre sentiment par rapport à ça?
Alors, je pense que la démocratie est mise à mal par les extrêmes, qui, si vous voulez, de jour en jour, je veux dire, déplacent leur combat. De manière dangereuse. Voilà, stigmatiser aujourd'hui, dénigrer certaines populations, etc., parce qu'on est en période de Covid, c'est pas normal. J'ai lu il y a deux, trois jours, je prends un tweet de Bardella, je ne sais plus ce qu'il disait. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition, ça c'est une certitude, que d'être dans la majorité. Dans la majorité, on est attaqué, dans l'opposition, on attaque. Attaquer à tort et à travers, c'est pas constructif. Sur des valeurs d'exclusion, quand je vois l'approche des quartiers qu'ils peuvent avoir, qui est complètement réductrice, le discours sur les quartiers, de toute façon, si on ne le fait pas évoluer, on en parle comme il y a 20 ans. On en parle exactement comme il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, à Lille, c'était compliqué dans les quartiers. Et je crains que ça le redevienne à un moment.
Oui, effectivement. Dans votre... Oui. Dans votre quotidien, dans le travail que vous effectuez au quotidien, ça fait peu de temps que vous avez pris vos fonctions, mais quelle est votre ambition et comment vous pensez pouvoir maintenir du lien avec vos électeurs?
Alors, le maintien du lien, je l'ai parce que déjà, je suis lilloise. Je circule depuis des années à pied en transport en commun. Mmh. Je suis bien identifiée dans mon quartier. Je n'ai pas changé mes habitudes.
D'accord.
Je n'ai pas changé non plus mes fréquentations. Donc, si vous voulez, mon objectif, c'est surtout de garder les pieds sur terre. Parce que c'est vrai que dans de la République, quand vous allez à l'Élysée, quand vous allez dans un ministère, quand vous rencontrez forcément des spécialistes émérites à l'occasion de réunions de travail. Oui, forcément, là, on prend la notion. Moi, la notion d'être députée, je l'ai prise au premier jour où je suis sortie de chez moi. Mmh. J'ai vu qu'on me reconnaissait, même si on connaît mon engagement, des gens qui tutoyaient, qui d'un seul coup se mettent à me vous voyez, mais oui, mais maintenant vous êtes députée. Bah oui, mais ça
change. Ah oui.
Mais voilà, ça c'est des petites choses importantes. Ce que je voudrais faire, c'est laisser une trace pour l'intérêt général. C'est absolument rester fidèle à mes valeurs. Donc pour ça, il faut savoir s'entourer, je pense. Garder les pieds sur terre, travailler toujours, être à l'écoute des critiques. C'est pour ça que je dis que je suis à l'écoute de tout le monde. Moi, pas non plus, je ne demande pas qu'on soit forcément d'accord avec moi, mais je revendique le fait que si je n'entends pas tout le monde, je ne peux pas faire mon
travail correctement.
Donc, j'ai besoin d'écouter des avis différents. Mmh. Donc, il faut que tout le monde joue le jeu. On a une occasion, moi je trouve que c'est magnifique de pouvoir la saisir.
Super, bon,
Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous souhaitez... Merci à vous. Souhaitez rajouter quelque chose pour conclure ?
Ben, je vous remercie beaucoup pour l'invitation parce que c'est une première pour moi.
Et c'est une première pour moi aussi.
Voilà, donc c'est une Merci. Première pour nous. Et puis j'espère que ben, peut-être dans quelques mois, on fera un numéro 2 ensemble avec peut-être des sujets plus précis sur la suite de mon engagement. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de réussite.
Merci beaucoup. Moi aussi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt.
Au revoir.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.